Europe 1, il est 8h.
Les parts de marché des véhicules électriques et hybrides en 2020 sont nettement plus fortes que ce qui n'y a jamais été observé dans les années précédentes.
Les Français et les voitures hybrides et électriques, le courant passe enfin. C'est une information Europe 1. Une vente sur 5 ces derniers jours. Les nouvelles primes écologiques donnent ce coup d'accélérateur. Oubliez l'hydroxychloroquine, le tocilizumab et le remdesivir. La dernière percée scientifique selon l'OMS se nomme dexamétasone, un traitement qui réduit la mortalité chez les cas grave du coronavirus, mais ce n'est pas pour autant le remède miracle.
C'est un traitement qui améliore la survie, c'est-à-dire que ça ne permet pas la survie de tous les patients, ça améliore la survie.
La survie au Grésilles, à Dijon, quartier que certains habitants considèrent comme abandonné par la République, reportage et les infos du service police-justice d'Europe 1 après les violences des derniers jours. Dans ce journal, Marine Le Pen, pas la bienvenue sur l'île de Sein, 80 ans après l'appel du 18 juin. Et puis le foot, la fin de la Ligue des Champions en modèle réduit, le Lyonnais Jean-Michel Aulas se voit presque soulever le trophée.
On serait, si on élimine la Juventus, à 2 matchs d'une finale de la Champions League.
À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit le maire de Dijon, le socialiste François Rebsamen. 8h30, François Pupponi, ancien maire de Sarcelles, auteur du livre Les Émirats de la République. Vos questions pour lui, inscrivez-vous maintenant au 39-21, 9h moins le quart ce matin. Évidemment, Nicolas Canteloup et sa revue de presse. Très bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, François Geffrier.
Longtemps resté au ras du bitume, les ventes de véhicules électriques ou hybrides s'offrent une petite pointe de vitesse. Les bonus écologiques et primes à la conversion en vigueur depuis le début du mois cartonnent.
De quoi faire refaire partir les immatriculations qui s'étaient effondrées au mois de mars et d'avril. C'est une information Europe 1, signé Aurélien Fleureau.
Sur les 10 premiers jours du mois de juin, les immatriculations de voitures hybrides ont progressé de 89% par rapport à la même période il y a un an. Plus de 1000 ventes par jour, c'est du jamais vu. Cela donne 15% du marché. Et si l'on y ajoute les 5% de voitures électriques, cela fait un véhicule sur 5 classé dans la catégorie des électrifiés. Une accélération spectaculaire relevée par 3A Data, spécialiste des données du secteur automobile. Marie-Laure Niveau, responsable intelligence marché.
Les parts de marché des véhicules électriques et hybrides en 2020 sont nettement plus fortes que ce qui n'y a jamais été observé dans les années précédentes. Ce sont des croissances d'autant plus remarquables que on sort de la crise sanitaire.
De quoi satisfaire les constructeurs dont les journées portes ouvertes du week-end dernier ont battu tous les records pour un mois de juin. C'est le cas chez Toyota, leader du marché de hybride. Chez Renault, la nouvelle Zoé est un succès. Son prix peut descendre à 20 000 euros si l'on cumule les 7 000 euros de bonus et les 5 000 euros de prime à la conversion. Même constat chez Hyundai où le Kona, un SUV compact 100% électrique, est très demandé. Pour le constructeur sud-coréen, le cumul hybride plus électrique atteint des sommets avec 40% de leurs ventes.
Le détail des chiffres d'Aurélien Fleureau est à retrouver sur europe1.fr. On donnait les statistiques du début du mois de juin, à l'instant celles de mai pour l'ensemble du marché européen, moins 52,3% pour les ventes de voitures. Pour le vaccin, on sait qu'il faut encore compter en mois, mais pour un traitement, y a-t-il une molécule déjà disponible pour soigner les patients malades du coronavirus?
Des chercheurs britanniques ont annoncé hier une avancée majeure, disent-ils. À l'issue d'une étude de grande ampleur nommée Recovery, testée sur 2000 patients, la dexamétasone a réduit d'un tiers la mortalité chez les patients qui étaient sous ventilation artificielle.
Mais pas de triomphalisme. Pour autant, la prudence, écoutez ce matin de Bruno Mégarban, le chef de service de réanimation médicale et toxicologique à l'hôpital Lariboisière à Paris.
Les médecins réanimateurs sont assez sensibilisés à l'intérêt éventuel de la dexamétasone. Donc, très probablement, un nombre important de patients ont déjà été traités par ce traitement. Il ne faut pas laisser penser, ça c'est un point important, que la dexamétasone est le traitement du Covid-19. Il ne faut pas laisser penser ça. C'est un traitement qui contribue à réduire le décès, mais ce n'est pas le traitement du Covid-19. Un certain nombre de nos patients qui étaient en réanimation ont reçu la dexamétasone, soit sont décédés, soit ne se sont jamais améliorés. C'est un traitement qui améliore la survie. C'est-à-dire que ça ne permet pas la survie de tous les patients. Ça améliore la survie. Vous voyez, ce n'est pas comme une angine, vous prenez un antibiotique, vous guérissez à 100%, ce n'est pas le cas.
Bruno Mégarban, joint par Ève Roger pour Europe 1.
En France, 291 personnes sont sorties hier des hôpitaux, ce qui porte le total à 73 300 personnes guéries depuis début mars.
Hier, devant les députés en commission d'enquête, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a défendu la stratégie française face au virus, expliquant notamment à propos des consignes changeantes sur les masques. L'OMS a beaucoup hésité, nous avons suivi les recommandations des experts internationaux.
La nuit a été calme à Dijon, c'est ce que nous disait dans le journal de 6h le député de Côte d'Or, sort Didier Martin après 4 soirées agitées.
Pour lui, les violences entre communautés tchétchènes et maghrébines sont absolument intolérables et n'ont pas leur place dans l'ordre républicain. C'est exactement ce que pensent et ce que disent les habitants de la cité des Grésilles où se trouve l'envoyé spécial d'Europe 1, Mathieu Bock.
Des immeubles récents de 3 ou 4 étages avec des terrasses en bois, des arbres, du gazon, un tram et des commerces. Après d'importants travaux de rénovation, les Grésilles ne ressemblent plus au quartier lugubre qu'il a été. Pourtant, Jamal, père de famille et cadre dans une entreprise du coin, a le sentiment d'être parfois encore oublié par les pouvoirs publics.
Bah, les policiers, on ne les voit jamais. C'est-à-dire qu'on a un poste de police juste à côté, il n'est jamais ouvert. Moi, ce qui me déçoit, c'est qu'il y ait de la violence. On a grandi, on a été à l'école de la République. On nous a appris que en fait, la seule violence légitime, c'est la violence de l'État. Ce n'est pas la violence des individus.
À ses côtés, Malik acquiesce. Son appartement donne sur la rue où se sont déroulés les affrontements.
Aujourd'hui, il y a M. Nunez qui devait venir. Il n'est pas venu. Tout ça pourquoi? Parce qu'apparemment, ce n'était pas assez sécurisé pour ce monsieur. Nous, on y vit ici. On ne pense pas si c'est assez sécurisé pour mes enfants à moi. On ne veut pas qu'il y ait des armes dans les quartiers. On ne veut pas ça. On est des pères de famille. Moi, j'en ai 3. Qui est arrivé avec les armes qui tournent en boucle, on n'en veut pas. On aurait aimé que la police républicaine, elle vienne faire son travail.
Pourtant, depuis 15 ans, ce sont 135 millions d'euros qui ont été investis pour démolir les anciennes barres d'immeubles et ainsi métamorphoser le quartier. Dijon, Mathieu Bock, Europe 1.
On entendait parler dans ce reportage de M. Nunez, Laurent Nunez, secrétaire d'État à l'Intérieur, qui promet une réponse extrêmement ferme.
Alain Accot, 2 enquêtes sont menées simultanément.
La première enquête vise à retrouver les Tchétchènes, notamment ceux qui ont tiré sur une pizzeria et grièvement blessé le gérant. La police judiciaire a déjà quelques pistes et même des noms de Tchétchènes locaux qui n'ont pas cherché à se cacher. Au contraire, le premier soir, quand ils ont commencé à arpenter le centre de Dijon avec barres de fer et battes de baseball, ils sont allés expliquer à une patrouille de police qu'ils étaient là pour venger une agression et pas pour s'en prendre aux forces de l'ordre. En cas d'arrestation, la difficulté sera de déterminer précisément parmi cette centaine de Tchétchènes qui a fait quoi pendant 3 jours. La deuxième enquête ne sera pas simple non plus. La sûreté départementale doit retrouver les individus masqués qui, après le départ des Tchétchènes, sont sortis dans la rue en exhibant des fusils d'assaut et des pistolets automatiques pour tirer en l'air ou sur les caméras de surveillance. Pas évident, d'autant qu'ils viennent probablement des 3 quartiers sensibles de Dijon et qu'ils ont eu largement le temps de cacher leurs armes, qu'elles soient vraies ou factices.
Alain Accot, chef du service police-justice d'Europe 1.
Cela fera 80 ans demain qu'ils ont répondu à l'appel du général de Gaulle, le 18 juin 40.
Une centaine d'habitants de l'île de Sein avaient rejoint la Grande-Bretagne, notamment parfois dans leur bateau de pêche. Anniversaire qui sera commémoré demain, mais une invitée surprise a voulu se joindre à la cérémonie, Marine Le Pen. Elle n'est pas la bienvenue sur place, François Coulon.
Les célébrations devaient être marquantes. La venue annoncée de Marine Le Pen sur l'île de Sein a contraint les autorités à les abréger, singulièrement aux grandes dames des 250 habitants. On nous vole notre cérémonie, déplore le maire sans étiquette Didier Fouquet.
Elle essaie de récupérer des symboles. La plupart des gens sont assez choqués. Elle nous gâche la fête. Nos anciens, ils doivent retourner dans les tombes. Nous ne pouvons pas nous interdire à Marine Le Pen de venir. Je ne peux pas demander aux gendarmes d'intervenir. Si elle peut trouver une certaine hostilité en venant à l'île de Sein, c'est peut-être pas plus mal.
Certains insulaires souhaitent empêcher la présidente du Rassemblement National d'accoster sur Sein. D'autres envisagent une journée île morte. Les Finistériens les plus remontés sont les anciens résistants. Alain Baudivit a 95 ans.
C'est honteux. Ils ont été anti-gaullistes tout le temps. Ils étaient pétains. Ils nous ont fait souffrir ici. Ça me dégoûte de la voir là. J'ai des larmes aux yeux. Elle n'a pas sa place là. L'île de Sein, c'est sacré pour nous, les gaullistes. C'est tout pour nous, les résistants. Ça me fait mal.
Le gros temps est prévu dès l'embarquement à Audierne. Une dizaine de mouvements politiques et associatifs appellent à un rassemblement d'ampleur. Audierne, François Coulon, Europe 1.
Europe 1. Vous restez avec nous dans un tout petit instant. Le coup de froid entre 2 alliés occidentaux, les États-Unis et l'Allemagne. A tout de suite.
Europe 1, il est 8h11, la suite du journal, François Geffrier, Mathieu Béliard.
Un coup énorme pour les États-Unis. C'est ainsi que Donald Trump veut réduire les effectifs militaires américains stationnés en Allemagne.
Ils sont environ 35 000 en permanence, mais pour le commander-in-chief américain, c'est trop, Vincent Hervouette.
Alors Donald Trump ne dira jamais « je suis un Berlinois » comme Kennedy. Il ne finira pas sa tournée d'adieu à Berlin comme Obama. Et on ne serait pas étonné qu'en privé, Donald Trump parle des Boches. Ça doit être freudien. Son grand-père venait de Bavière. Donald Trump déteste l'Allemagne depuis longtemps. Il y a 40 ans déjà, il s'indignait qu'un allié si riche abuse de la protection que lui offre l'OTAN. Depuis son élection, le dossier est sur la table. Il y a 2 ans, il s'étonnait que l'Allemagne verse des milliards à la Russie pour construire un gazoduc, alors que l'Amérique paye pour la protéger de la Russie. Hier encore, il a attaqué Berlin, qui devrait des milliards de dollars à l'OTAN. Donald Trump n'accorde plus aucun crédit à Angela Merkel, et c'est réciproque. Le mois dernier, la chancelière a torpillé le G7 que l'Américain voulait réunir à Camp David. Et avec Trump, tout se paye.
Est-ce que la sécurité de l'Europe va en être affectée ?
Eh bien, à terme, le parapluie américain va se replier, ça prendra du temps, mais la guerre froide est terminée. Est-ce que les Européens sont prêts à augmenter leurs dépenses militaires pour assurer eux-mêmes leur défense ? C'est la vraie question. En attendant, l'aide américaine reste vitale. Un seul exemple, au Sahel, sans les grandes oreilles du Pentagone, les para-français n'auraient pas éliminé Drogdel, l'émir d'Al-Qaïda, il y a 15 jours.
Le regard international de Vincent Hervouet, tous les jours à 8h sur Europe 1. Nouvelle mesure de confinement à Pékin, fermeture des écoles et plus de 1200 vols annulés aujourd'hui, soit 7 sur 10. On est à 137 cas de contamination depuis vendredi dans la capitale chinoise. En Inde, les statistiques explosent après des failles dans le comptage des victimes. 2000 morts de plus annoncés, soit 11 900 au total.
Le football à présent, et ça y est, on a un champion d'Allemagne, c'est de nouveau le Bayern de Munich.
8e année consécutive, 30e titre de son histoire. Aujourd'hui, les amateurs de foot seront concentrés sur un comité exécutif, un COMEX, celui de l'UEFA, qui va décider du format de la fin de la Ligue des Champions. Cyril de la Morinerie.
Il n'est pas question d'arrêter la Ligue des Champions, poule aux œufs d'or de l'UEFA. La solution privilégiée, un tournoi entre les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale. Compétition qui devrait se dérouler sans match retour à partir du 12 août, pendant une dizaine de jours, dans une seule et même ville, Lisbonne. Le PSG est d'ores et déjà assuré de participer à ce mini-tournoi, mais Lyon, qui doit disputer son 8e de finale retour contre la Juventus de Turin, espère également être au rendez-vous, explique sur Europe 1 le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas.
On va, je pense, aller jouer le match retour à la Juventus. Et si on pouvait aller à Lisbonne, jouer notre chance dans un Final 8 qui permette de faire quart de finale, demi-finale, finale, on serait, si on élimine la Juventus, à 2 matchs d'une finale de la Champions League.
L'UEFA espère également accueillir à Lisbonne des spectateurs, même si la décision dépendra du contexte sanitaire. En tout cas, les dates choisies aujourd'hui auront des répercussions sur le calendrier français. La Fédération française espère organiser la finale de la Coupe de France fin juillet et début août, la finale de la Coupe de la Ligue.
Cyril de la Morinerie.
Merci François Geffrier, c'était le journal de 8h sur Europe 1. À 8h15, nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. La nuit a été calme à Dijon, mais les stigmates de 4 jours de folle violence hante tous les esprits. Dijon, c'est le Far West ou Bagdad, a dit hier Marine Le Pen sur place. Réponse dans quelques minutes du maire, François Rebsamen.
A tout de suite sur Europe 1.
8h17, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
Et votre invité Sonia Mabrouk, c'est le maire de Dijon, François Rebsamen.
Bienvenue ce matin sur Europe 1 et bonjour François Rebsamen.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Est-ce que Dijon, c'est Bagdad, comme l'a dit hier Marine Le Pen ?
On aurait mieux fait de se taire, Marine Le Pen, parce que, vous savez, c'est un beau quartier de Dijon où dont les gens sont desservis par les transports en commun, le tramway. Il y a 2 écoles d'ingénieurs, l'agence régionale de la santé qui y est installée. Bref, on voit qu'elle ne connaît pas du tout ni cette ville, ni ce quartier. Et d'ailleurs, je lui ai dit, elle n'était pas la bienvenue à Dijon.
Quand elle dénonce le laxisme de l'État, quand elle dénonce le communautarisme encouragé par de nombreux élus, en quoi son réquisitoire est faux ?
D'abord, je pense qu'il n'y a pas de laxisme de l'État. Il y a des effectifs insuffisants dans la police nationale. On manque bien évidemment de magistrats. Donc la police et la justice, généralement, ça fonctionne pas très bien. Mais il n'y a pas de laxisme de l'État. Au contraire, quels que soient les gouvernements, ils font avec ce qu'ils ont. Le problème, par exemple, pour la police nationale, permettez-moi de dire cela, c'est que sous Nicolas Sarkozy, c'est 10 000 postes de policiers qui ont été supprimés. Et donc, ils n'ont pas été rétablis sous François Hollande, qui a créé 9 000 postes de policiers, mais qui les a affectés prioritairement, peut-être avait-il ses raisons, je le pense d'ailleurs, à la lutte contre le terrorisme. Vous voyez, donc, on n'a pas récupéré
encore,
ces policiers sur le terrain.
Encore revenir, François Rebsamen, à ce qui a été fait il y a quelques années, mais la responsabilité actuelle des élus, par exemple, beaucoup disent que certains ont acheté la paix sociale à coup de compromissions, à coup de communautarisme rampant dans certains quartiers. Qu'est-ce que vous répondez
à
cela ?
Mais non, pas du tout. Vous pensez qu'on fait comme ça ? Peut-être que ça se passe dans certains endroits, mais ce n'est pas comme ça dans une ville paisible comme la ville de Dijon, qui malheureusement a été stigmatisé pendant 3 jours parce qu'il y a eu une bande de Tchétchènes qui s'est abattue sur cette ville pour rendre elle-même la justice, qui est totalement contraire au droit républicain. Donc, sinon, bien évidemment que non. Et heureusement qu'il existe une politique de la ville pour les quartiers difficiles, pour les gens qui sont des gens modestes qui habitent dans ces quartiers. Et il faut arrêter cette stigmatisation de Mme Le Pen qui, telle les vautours, essaye de dépecer la République.
En quoi c'est une stigmatisation, François Rebsamen ? Effectivement, ce quartier des Grésils a été rénové. Hein. Il n'est plus du tout le même. Les grandes barres d'immeubles ont été détruites au profit d'autres bâtiments. Vous jugez que c'est une politique de la ville qui a porté ses fruits quand on a vu ce qui s'est passé ces derniers jours ?
Ben vous savez, ce qui s'est passé était totalement inattendu et inédit.
Vraiment ? C'est une surprise pour vous ?
Ah ben oui, on ne peut pas imaginer, personne ne pouvait imaginer que 150, 180 Tchétchènes qui ne sont pas de Dijon, qui viennent de toute la France, voire de l'étranger, m'a-t-on dit, s'abattent comme ça sur la ville pour rendre la justice. Le problème, effectivement, c'est que quand il y a des actes de délinquance, il faut que la justice passe. Or, elle passe trop lentement. Et donc, ces voyous qui ont tabassé, molesté ce jeune Tchétchène, ils devraient être traduits devant la justice. Et c'est cela qu'on attend de la justice, qu'elle puisse, après une enquête, entendre et condamner ceux qui commettent des exactions.
Des voyous, François Rebsamen, avec des armes de guerre, un armement quasiment paramilitaire. Est-ce que vous savez en ce moment, dans votre ville, s'il y a des fouilles, des perquisitions pour savoir où sont passées ces armes ?
Mais il y a déjà eu des perquisitions. Il y a des perquisitions. Je ne suis pas sûr que toutes ces armes étaient dans ce quartier ou venaient sur ce quartier. Elles pouvaient venir d'autres endroits. Vous savez, il y a eu un regroupement de personnes cagoulées qui venaient d'un peu partout, pas uniquement de Dijon, mais sûrement pas que du quartier. Et donc, nous avons vu comme cela des personnes qui n'étaient pas des habitants de ce quartier.
Mais vous vous connaissez certains.
Ni de Dijon.
Oui, et vous connaissez certains des membres. Peut-être avez-vous reconnu certains des membres de cette communauté, soit tchétchène, soit de la communauté maghrébine impliquée dans ces règlements de compte.
Ouais, je n'avais jamais vu un tchétchène. Je n'ai jamais vu de Tchétchène à Dijon. Il y en a 3, 4, 5, une dizaine maximum. Ils vivent tranquillement. Donc, c'était un effet de surprise totale, y compris pour les forces de l'ordre d'ailleurs. Parce que le problème, c'est que le renseignement territorial, il n'a pas fait son travail, visiblement, puisqu'on doit prévenir le préfet, on doit prévenir le maire. Enfin, le maire, on l'oublie souvent, mais on doit aussi prévenir le maire quand il y a un rassemblement qui arrive comme ça. On ne sait pas d'où viennent ces personnes.
Donc, effectivement, un échec du renseignement territorial, qui est d'ailleurs l'une des parties du renseignement intérieur aussi.
Oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas où était la faille, mais enfin, il y a eu une faille, visiblement, parce que personne n'avait prévu leur arrivée. Et c'est moi qui les ai vus à minuit sur la place de la République débarquer. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Voilà exactement comment ça s'est vécu. Et après, ils sont occupés ce quartier, et vu qu'il n'y avait pas assez de policiers auxquels je rends hommage à chaque fois que je le peux, vous le savez bien.
Mais je le sais. Mais François Rebsamen, c'est assez édifiant de vous entendre ce matin dire « c'est moi qui les ai vus » presque par hasard sur une place de la ville, et c'est ce qui explique donc, selon vous, ce retard dans l'intervention des forces de l'ordre.
Oui, mais les forces de l'ordre, elles n'étaient pas en nombre suffisant sur la ville. Elles ne sont jamais en nombre suffisant dans toutes les grandes villes de France, la nuit. Et ça, il suffit d'interroger tous les maires des grandes villes, ils vous le confirmeront. Il y a des grandes villes de France, des grandes métropoles, où il y a 2 ou 3 équipages de la BAC la nuit, c'est-à-dire pas grand monde. Des gens qui font tout ce qu'ils peuvent, mais ils ne sont pas assez nombreux. Et donc, il faudrait qu'on ait une nouvelle conception de la relation entre la police et la justice. Mais ça supposerait un rassemblement. Ça supposerait bien évidemment un rassemblement et une vraie discussion. Comment faire en sorte qu'on ne soit plus... Je me rappelle au moment du départ de Gérard Collomb du ministère de l'Intérieur, de ce qu'il avait dit.
Et oui, sa phrase.
On va bientôt ne plus vivre côte à côte, mais on va vivre face à face.
Et c'est déjà le cas. C'est déjà le cas, notamment à Dijon, dans ce quartier des Grésils.
Non, mais non, moi j'y vais jeudi matin, je vais au marché. Ce quartier est un quartier agréable. Non.
C'est pas du déni, monsieur le maire, que vous nous faites, parce que on vous connaît.
Mais
vous avez voulu être ministre de l'Intérieur. Vous connaissez bien ce sujet de la sécurité. Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous dire, vous n'êtes pas en train de repeindre en rose le quartier qui est pour certains considéré comme un territoire perdu de la République ?
Mais ce n'est pas un territoire perdu de la République, mais enfin, il faut y venir. Moi, j'étais hier avec les habitants, il y avait la presse qui était là, le secrétaire d'État n'est pas venu, mais moi, j'étais avec les habitants, j'ai été interpellé. Comment vous nous avez laissés? Vous nous avez abandonnés pendant 3 jours aux mains des Tchétchènes? Qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Moi, ce n'est pas moi qui dirige la police nationale. La police, elle a fait ce qu'elle pouvait ici et j'ai demandé des effectifs supplémentaires qui sont arrivés. Maintenant, le quartier retrouve son calme, heureusement. Et,
Monsieur le maire, effectivement, ce n'est pas vous qui dirigez la police, c'est le ministre de l'Intérieur, mais qui a brillé par son absence?
Il a fallu que je l'appelle 2 fois, mais il m'a envoyé les effectifs un peu tardivement, mais il m'a envoyé les effectifs supplémentaires. Enfin, il a envoyé au préfet, pas à moi, bien sûr, des effectifs supplémentaires pour sécuriser ce quartier. C'est ça qui nous manque, vous savez, c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Et il suffirait qu'il y ait plus d'effectifs, de présence, de dissuasion, avec une présence policière affirmée, pour qu'il y ait moins de voyous dans les rues. Et pas
François Rebsamen, il y a ce que vous dites, évidemment, la nécessité de la présence policière, et puis il y a le sursaut également des responsables politiques. On est aujourd'hui dans une tension sociale générale, évidemment, qui dépasse largement Dijon. Est-ce que ça met en difficulté le président de la République sur ces sujets éminemment régaliens en vue de 2022?
On ne l'entend pas beaucoup sur ce sujet, il serait bien qu'il s'exprime à un moment et qu'il réfléchisse. Vous savez, c'est toute une articulation, il faut commencer par la prévention. Or, dans de nombreux départements, dont le mien, le département a supprimé la prévention spécialisée. Il n'y a plus d'éducateurs de rue, ceux qui accompagnaient ces enfants qui commençaient à faire de la petite délinquance ou qui n'allaient plus à l'école. Il n'y a plus d'éducateurs de rue, donc pas de prévention. Il n'y a plus de dissuasion, il n'y a pas de police de proximité. La justice, elle vient beaucoup trop tard, la sanction arrive toujours. Des fois, 1 an et demi après, et dans certains départements de la région parisienne, 2 ans après, vous êtes convoqué devant le tribunal.
Alors, il y en a un que vous connaissez bien et qui dénonce tout cela avec ses mots à lui, hein, par rapport à ce contexte général. C'est Manuel Valls, dans une interview accordée à Valeurs Actuelles, qui dit que la lutte des classes, de manière générale, disparaît au profit de la guerre entre races, hein, qu'il dénonce cette guerre entre races, puisqu'elle essentialise. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça perturbe, cette phrase, le logiciel de la gauche?
De toute façon, Manuel Valls, il a souvent perturbé le logiciel de la gauche.
Et vous le rejoignez alors, si je vous entends bien?
Non, je l'ai accompagné à un moment, je l'ai suivi, mais ces expressions exagérées, la guerre des races, mais enfin, c'est pas ça la guerre, c'est pas la guerre là. La guerre, ça fait des morts. La guerre, c'est terrible. On ne vit pas dans un état de guerre.
Monsieur le maire, la guerre avec des armes de guerre chez vous, est-ce que ce n'est pas la vraie guerre? Est-ce que ce n'est pas votre vision, pardonnez-moi, mais qui est trop bisounours par rapport à ceux qui dénoncent cela?
Alors, madame Mabrouk, vous pouvez m'accuser de tout sauf être bisounours en matière de sécurité. Je vous réponds précisément. Il n'y a pas eu un mort, donc ce n'est pas la guerre. Il faut aussi relativiser les choses. Il y a eu une bande de Tchétchènes, j'y peux rien, moi. Ça s'est passé aussi à Nice, donc dans une ville où il y a 450 policiers municipaux. Mon collègue Christian Estrosi, il est confronté à des choses comme ça. Donc voilà, on est confronté à ça, on essaie de faire face avec les moyens dont on dispose, et ils sont insuffisants. C'est tout ce que je peux en dire aujourd'hui. Et j'espère que les habitants de ce quartier vont retrouver la sérénité qu'ils connaissent d'habitude.
Et on l'espère évidemment. Merci François Rebsamen. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Europe 1 et bonne journée à vous.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h28. Vous restez avec nous, à suivre, on continue ce débat avec vous. J'insiste au 39-21, vos questions, vos remarques, vos témoignages sur le hashtag Europe 1. D'ailleurs, vous vivez peut-être au Grésil ou dans un quartier similaire. N'hésitez pas à prendre la parole. L'ancien maire de Sarcelles, le député François Pupponi, dans ce studio dans quelques toutes petites secondes.
Europe 1, il est 8h31. Votre invité Mathieu Béliard, le député du Val-d'Oise, ancien maire de Sarcelles, François Pupponi, auteur du livre « Les Émirats de la République » paru aux éditions du CERF. Vos questions, vos réactions, 39-21 et avec le hashtag Europe 1.
Bonjour François Pupponi.
Bonjour.
Les violences à Dijon, la problématique des quartiers sensibles, comme on dit pudiquement, la reconquête républicaine, pour reprendre quelques expressions, François Pupponi, tiens, la problématique des quartiers que vous connaissez bien, vous avez été longtemps maire de Sarcelles, dans le Val-d'Oise, cette problématique de quartier, de cité sensible, c'est ce qu'on a observé à Dijon, selon vous ?
Oui, quelque part, parce que en fait, ces quartiers, on le sait depuis longtemps, ils sont gangrénés par l'économie souterraine, par les trafics de drogue. Et quand il y a des trafics de drogue, eh bien, ça attise les ambitions des uns et des autres. Alors là, visiblement, d'après ce que j'ai compris, c'est un règlement de compte entre la communauté tchétchène et une communauté maghrébine qui aurait agressé un jeune tchétchène. Bref, mais c'est un trafic de drogue qui s'est installé dans un quartier, qui essaie de faire régner la loi. Et puis parfois, bah, y a une nouvelle communauté qui arrive en France, qui dit bah, « nous, on ne va pas se laisser faire ». Et donc, on en arrive, mais c'est pas la première fois. Alors, d'un tel niveau, oui, c'est la première fois, et les images sont assez catastrophiques et édifiantes, et insupportables. Mais ce n'est pas la première fois que des gens essayent de se défendre dans ces quartiers, et qu'il y ait effectivement des règlements de compte entre jeunes dans ces territoires. Ça arrive malheureusement quotidiennement, et il y a des dizaines de morts dans nos territoires, dans nos quartiers depuis des années, dans l'indifférence générale, liées à des trafics de drogue ou à des représailles,
oui,
entre jeunes.
Il faut comprendre, voilà, entre les lignes, que quand vous dites des communautés qui se défendent, j'insiste sur le pronom se, c'est parce qu'il y a une lacune de l'État en face que certains se font justice eux-mêmes.
Ben, vous savez, quand on est dans un pays où régulièrement des jeunes meurent parce qu'il y a des règlements de compte entre bandes, oui, c'est qu'il y a un moment un laxisme de l'État en général, de notre pays. Voilà, on n'a pas abandonné ces quartiers. Des choses exceptionnelles ont été faites, de l'argent a été déversé.
Oui, beaucoup d'argent. Vous le dites rapidement, François Pupponi, mais là, je prends l'exemple, par exemple, des Grésilles dont on parle ces derniers jours, les Grésilles, ce quartier de Dijon. On avait notre reporter, notre envoyé spécial Mathieu Bock, qui nous racontait ces tours démolies, ces nouveaux immeubles, ce côté printanier sympathique aux Grésilles, ces millions investis.
Oui.
Aujourd'hui, on n'a pas l'impression d'en avoir pour notre argent.
Mais si, mais pourquoi ? Parce que quand on a détruit ces tours et qu'on a reconstruites, les services de l'État ont remis, ou les bailleurs, ont remis les mêmes populations au sein de ces territoires avec les mêmes difficultés. Et les trafics de drogue qui étaient dans le quartier précédemment n'ont pas été éradiqués. Donc vous pouvez investir les milliards que vous voulez. Si parallèlement à ça, il n'y a pas une politique sociale d'attribution de logements ou de lutte contre l'économie souterraine, le problème restera les mêmes. Vous aurez des immeubles neufs, magnifiques, mais le trafic de drogue sera toujours là. Et ça, alors là, pour le coup, moi, je ne peux qu'en témoigner, l'État ne l'a pas compris. On a déversé des milliards pour l'ANRU, mais à côté de ça, la police et la justice n'ont pas fait son travail pour, en même temps, dans le quartier, éradiquer le trafic de drogue qui gangrenait le quartier. Donc, je répète, un quartier tout neuf.
Si je vous suis bien, François Pupponi, les élus locaux ont fait, avec l'aide de l'État, bien sûr, l'ANRU, c'est la loi de rénovation urbaine.
Oui,
ils ont fait leur
absolument
boulot. Et de l'autre côté, police-justice, la chaîne... La réponse pénale, par exemple, qui est très souvent montrée du doigt. Il y a un problème avec les magistrats sur ces questions-là, François Pupponi ?
C'est évident, la réponse est trop longue. Je répète, comment peut-on imaginer que l'on va mettre des milliards ou des centaines de millions d'euros dans un quartier comme Grésilles et que parallèlement, la justice et la police ne disent pas en même temps « Bon, ok, on va refaire le quartier, donc nous, on va s'occuper du trafic de drogue. » Et ce travail-là, en parallèle, il n'est pas fait. La justice vit sa vie. Elle prend ses décisions souvent tardivement et elle ne se préoccupe pas de ce qui se passe dans le quartier en termes de rénovation urbaine. Mmh. Moi, je n'ai jamais rencontré un magistrat ou un procureur pour lui dire, voilà, écoutez, nous, on va refaire tout le quartier, venez nous aider. Ça ne les intéresse pas. Ils vivent à côté. Voilà, ce sont deux mondes parallèles qui se parlent très peu. Et bien, on en arrive à des situations comme celle-là où on a fait beaucoup d'efforts et tout peut être remis en cause parce que l'État, dans sa globalité, ne travaille pas main dans la main sur un même territoire. Et ça, c'est le drame de nos politiques publiques depuis 40 ans.
La police, la justice, au niveau national, ce qui est décidé, la lutte contre les trafics de drogue, mais également autre échelle, la police de sécurité du quotidien, dont le déploiement doit être accéléré. Ça se joue à ce niveau-là aussi. J'entendais François Rebsamen à l'instant regretter la police de proximité.
Oui, mais c'est évident, parce que chaque fois qu'un ministre de l'Intérieur arrive, il veut remettre en cause ce qu'a fait le précédent. Voilà, donc voilà, ça c'est très français. Celui qui était avant moi était nul, donc je vais faire mieux que lui. Et puis quand je m'en vais, celui qui me remplace, bon, voilà, on connaît tout ça. Voilà, c'est le drame de ce pays. Ces territoires-là, ils ont besoin d'une politique d'État sur la durée, sans qu'on la remette en cause. Que chacun ait l'humilité de dire, eh ben, je vais continuer ce qu'a fait mon prédécesseur, parce qu'on a engagé une action sur ces quartiers-là et qu'il faut la continuer. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça se passe, parce que les responsables politiques que nous sommes, pour certains, parce qu'ils ont des égos démesurés, eh ben, ils considèrent que quand ils arrivent, ils doivent marquer les choses, marquer l'histoire. Et ils réinventent tout ça en permanence. Et oui, on en arrive là aujourd'hui. Je répète, si l'État n'est pas capable, si la France n'est pas capable sur ces territoires d'avoir une action commune, cohérente, complète, nous n'y arriverons jamais. J'en suis mais intimement convaincu depuis longtemps.
8h36, Europe 1. Je vous garde bien sûr avec nous, François Pupponi, ancien maire de Sarcelles, député du Val d'Oise. Aujourd'hui, on va continuer à parler de ces quartiers un peu plus généralement. On va quitter Dijon quelques instants, même si je vais vous lire le tweet d'Isabelle, qui est dijonnaise, dans quelques toutes petites secondes.
Il est 8h38, vous écoutez Mathieu Béliard sur Europe 1 et vous échangez avec François Pupponi, ancien maire de Sarcelles, député du Val d'Oise. Au 39-21, vous réagissez avec le hashtag Europe 1.
Et justement, François Pupponi, sur le hashtag Europe 1, je vais vous lire ce que nous a écrit Isabelle ce matin. Nous avons reçu le député de la circonscription au téléphone, de cette circonscription de Côte d'Or, bien sûr, François Rebsamen également. Isabelle nous écrit « Insupportable d'hypocrisie, les témoignages d'habitants des Grésilles. La police ne peut entrer dans ces trois quartiers, les seuls réhabilités avec infrastructures dédiées, sans que nombre de voitures
brûle. Si on écoute ce député de Côte d'Or, on ne saurait pas si les armes exhibées ou utilisées proviennent d'un trafic, mais quelle hypocrisie, on trouve des calaches en supermarché quasiment, nous dit Isabelle. C'est la réalité, on a tous été surpris, choqués même par ces images d'hommes cagoulés, masqués avec des pistolets, des kalachnikovs. C'est la réalité des quartiers aujourd'hui. Il y a autant d'armes en circulation, François Pupponi.
Mais bien entendu, et tous les services de police le savent. Oui, l'économie souterraine engendre énormément d'argent, et avec cet argent, les délinquants, les trafiquants de drogue achètent des armes. À la fois pour impressionner, à la fois pour faire peur, mais aussi pour se défendre lorsqu'ils sont attaqués, ou même pour aller attaquer d'autres bandes rivales. Mais bien entendu que ces quartiers sont gangrénés par le trafic d'armes et le trafic de drogue. Mais enfin, faut pas être naïf pour ne pas le reconnaître. Oui, c'est une réalité. Et effectivement, la lutte contre le trafic de drogue, elle est très compliquée, très longue. C'est des services dédiés, ils mettent du temps, ils n'ont pas les moyens, donc ils s'appliquent pas à tous les trafics en même temps. Et donc, ça laisse des territoires entiers. Vous savez, moi, quand j'étais président de l'ANRU, je suis allé à la Castellane. Voilà, j'allais visiter les chantiers de l'ANRU à la Castellane. Eh bien, pour rentrer dans le quartier de la Castellane, nous étions deux députés, Henri Gibrayel et moi-même. Il fallait que je demande au dealer du coin l'autorisation de rentrer dans le quartier. Je l'ai vécu personnellement. Il était 15h un après-midi. Voilà, ils avaient barré l'entrée du quartier et nous avons demandé gentiment à ce dealer si nous avions le droit de rentrer dans le quartier. Il nous a dit oui et puis nous sommes rentrés, nous sommes ressortis après autorisation du dealer. Voilà, c'est ça la réalité de ces quartiers. Et il faut arrêter d'être dans le déni, de ne pas comprendre ce qui se passe.
Déni, c'est, oui, de l'angélisme, si je vous suis...
Oui, ou du déni, oui. Ou de l'angélisme. Enfin, oui, certains ne veulent pas voir cette réalité. Enfin, moi, je répète, être député de la République et de devoir, quand vous faites votre travail, demander à un dealer l'autorisation dans un quartier, je ne l'ai jamais accepté. Bon, ben, certains l'acceptent, visiblement. Alors, de temps en temps, on fait des opérations un peu symboliques pour montrer que l'État fait. Et en fait, ces quartiers sont aux mains, en tout cas pas tous, mais certains sont aux mains de ces réseaux délinquants. C'est une réalité.
Alors, nous donnions ce matin sur l'antenne d'Europe 1 la réponse qui se veut ferme du gouvernement. Parmi les idées avancées hier, la possibilité d'expulser des étrangers impliqués. En l'occurrence, on parlait de cette communauté tchétchène. Il y a Stéphane qui nous a écrit sur le hashtag Europe 1. Si ma mémoire est bonne, François Pupponi est de gauche. Que pense-t-il du rétablissement de la double peine?
Non, mais la double peine, c'est autre chose. Bien entendu que si quelqu'un commet un acte délinquant en France et qu'il n'est pas français, il faut l'expulser. C'est une réalité. La vraie difficulté que nous avions eue quand nous étions au pouvoir et que nous avons maintenant, que fait-on des Français qui sont délinquants? Voilà, ceux-là, il faut les mettre en prison. Voilà. Et voilà, on connaît la loi. On ne peut bien entendu pas expulser ceux qui sont français, et c'est normal. Les étrangers qui commettent des délits en France peuvent être expulsés et doivent être expulsés. C'est la moindre des choses. Mais que fait-on une fois qu'on a constaté tout ça et appliqué la loi pour éviter que ça revienne? C'est ça qui m'intéresse, moi. Quand, à un moment, l'État va-t-il mettre en place des vraies structures de lutte contre l'économie souterraine dans ces territoires? Voilà. Et nous ne l'avons pas fait. Et la gauche et la droite est responsable. Nous ne l'avons pas fait depuis des années. Nous avons fait des efforts, mais pas suffisants pour éradiquer ces fléaux. Et je vais vous dire une chose.
François Pupponi, la priorité, là, comme ça, s'il fallait choisir, je sais bien que c'est plus complexe, c'est pas manichéen, mais s'il fallait choisir, la priorité, c'est la lutte contre ces trafics ou c'est la lutte contre les communautarismes?
Non mais aujourd'hui, les deux. Mais j'allais dire,
parce que c'est pas forcément la même chose.
Non mais l'urgence pour les citoyens, c'est de lutter avec la loi contre ces trafics et que les délinquants n'aient plus le droit de faire régner la terreur dans ces territoires. Et parallèlement, il faut un combat politique pour lutter contre le communautarisme, parce que tout est un peu lié. Quand ces quartiers sont abandonnés par la... Enfin, on ne peut pas dire d'ailleurs que ces quartiers soient abandonnés par la République. La République, elle fait beaucoup de choses. Mais malheureusement, en termes de lutte contre la délinquance, elle n'en fait pas suffisamment. Mais quand le citoyen a le sentiment que la République l'a abandonné, alors le citoyen va vers des gens qui lui disent « Mais viens avec nous dans notre communauté, tu verras, tu seras protégé. » Et donc le communautarisme se nourrit de ces trafics et de l'abandon à peu près constaté par les citoyens de la République dans ces quartiers. Et donc il faut lutter contre les deux, bien entendu, avec des armes différentes.
Un dernier mot, François Pupponi, déclaration dans Valeurs Actuelles de Manuel Valls, ancien ministre de l'Intérieur, ancien Premier ministre. La lutte des classes disparaît au profit de la guerre entre races. Est-ce que vous partagez ce sentiment?
Il a entièrement raison. Il a entièrement raison.
La guerre entre races.
Oui, aujourd'hui, dans ma ville, et depuis des années, on me dit, voilà, maintenant, il faut partir, c'est la place aux Noirs, c'est la place aux Maghrébins, nous devons avoir la place parce que nous sommes de telle couleur de peau. Oui, mais ça m'arrive, mais tous les jours, depuis des années, que ces revendications existent. Alors, elles sont extrêmement minoritaires. Mais aujourd'hui, oui, certains se placent sur une logique de lutte entre les races et ils revendiquent leur place en fonction de la race qu'ils considèrent avoir. Oui, c'est une réalité, mais qui n'est pas nouvelle. Et effectivement, la lutte des classes est en train d'être remplacée par la lutte des races. Oui, c'est la dure réalité du pays dans lequel nous sommes.
François Pupponi, merci beaucoup. Les quelques questions de nos auditeurs, vos réactions à cette actualité brûlante en ce début de semaine. Merci François Pupponi, député du Val d'Oise, ancien maire de Sarcelles et auteur des Émirats de la République en direct ce matin sur Europe 1, 8h44.
Europe 1. Dans un instant, la revue de presse avec Nicolas Cantelou et Julie sur Europe 1. Europe 1, 8h47.
Et ils sont là, Nicolas Cantelou avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Cantelou. Et devinez quoi ? C'est à vous Mathieu Béliard.
Bonjour Julie. Bonjour, rebonjour, devrais-je dire. Bonjour à tous, c'est Mathieu Béliard sur Europe 1, bienvenue. On vient de recevoir le maire de Dijon, avant François Pupponi, maire de Dijon, François Rebsamen, courageux, il nous a pas dit en tout cas qu'il renonçait à rester maire de Dijon. Moi, vu l'ambiance, je me serais barré direct. Hein, bref, l'info du jour, c'est Marine Le Pen, nous l'avons dit, qui était à Dijon hier. Oui, normal, elle a entendu musulman contre maghrébin, elle a foncé sur place. Pour elle, c'est quelque part, c'est JO à elle, c'est la Ligue des Champions réunie. Place en loge, la totale. Et puis, l'autre info, c'est la commission d'enquête de l'Élysée qui a débuté sur la gestion de l'épidémie. L'Élysée qui enquête sur la gestion de la crise par l'Élysée. Jusqu'au bout, on ne pourra pas faire plus chinois qu'avec ce virus. Hein. Voilà. Je mettrai un billet sur le fait qu'ils vont se trouver super à tous les coups.
Bah merci Mathieu. Allez, un petit point météo maintenant avec Laurent Cabrol. Dites-nous tout, mon cher Laurent.
Moi, Julie, j'ai envie de dire moi, Julie, ce matin. Je ne fais pas folichon. Pas folichon, on est clairement en dessous des normales saisonnières, hein, sauf sur Dijon, hein, et sa région. Hein, toute la région dijonnoise, dijonnoise. Une de mes régions préférées, Dijon. Ah hein, oui. Oui, c'est la région du Dijon. Voilà. Ça passe pas. Bon, okay,
non, okay. Aussi,
bref, il fait très chaud, vous l'avez compris, sur Dijon, mais je conseille quand même le GIBPP.
Le GIBPP.
Oui, le gilet pare-balles par précaution. À noter des précipitations. Alors, c'est pas, chers amis auditeurs, sur la région de Dijon, c'est pas de la pluie, hein, c'est pas de la grêle, c'est plutôt on est plutôt dans le parpaing, hein, dans le caillou, un gros caillou, voire le boulon de 14. On va pas se mentir, ça reste très orageux sur Dijon. Il y a toujours deux grosses masses d'air, les cumulos tchétchénus, hein, qui vont rencontrer les stratos maghrébus.
Oh, pas mal.
Hein. Faut pas être dans le coin. Voilà, attendez que ça passe. Donc, moi, j'ai envie de dire, mettez-vous aux abris. Hein, et puis surtout, bon courage. Hein.
Eh bien, merci Laurent, on aime bien avancer. Après les violences à Dijon, on s'interroge sur la situation. Est-elle revenue à la normale ? Pour le savoir, on va se connecter plutôt à la matinale de BFM TV avec Christophe Delay.
Bonjour, bienvenue sur BFM Télé pour suivre donc avec vous et avec nous en direct la situation sur Dijon. Dijon, on vous le rappelle, on rappelle l'effet Dijon. Dijon qui est désormais cette plaque tournante européenne mondiale du trafic de drogue. Dijon qui a été mise à sac par des barbares tchétchènes et maghrébins qui sont venus jusque dans nos bras pour égorger nos fils et nos campagnes. Mais la situation semble être plus calme d'après nos envoyés spéciaux sur place. On va en parler tout de suite, juste après ce jingle. Voilà, on le sent, l'apaisement est revenu sur Dijon. On va retrouver à Dijon Patrick Sauce avec son caméraman Lionel Bolognaise. Alors, Patrick, vous êtes sur place. Quelle est l'ambiance, Patrick, sur place ?
Écoutez, Christophe, ici donc à Dijon, la situation est tout à fait normale. Les habitants sortent désormais faire leurs courses en toute tranquillité.
Je vous arrête, Patrick, pardon, mais qu'est-ce que on entend quelques petits bruits autour de vous. On entend, Patrick, les affrontements ont repris, c'est cela. Vous êtes sûr que tout est normal, Patrick ?
Oui, oui, Christophe, ici, rien à signaler, les fleurs poussent, les fleurs poussent, voilà, les oiseaux chantent, c'est, tout va bien, c'est, et, qu'est-ce que je dois dire quoi déjà?
Tu dis tout va bien, tu dis Tchétchène très gentil, tu dis ambiance printemps, sinon moi, tire-balle, moi, pistolet, moi, dans testicule-toi.
Encore? Oh non, j'ai déjà fait le reportage sur Piotr, il m'a cloué les roustons sur le parquet.
Ah oui, c'est vrai.
Pardon. oui, alors, Christophe, m'entendez?
Oui, Patrick.
Christophe, ici donc, à Dijon, je le répète, tout va bien.
Oui.
Tchétchène, très gentil, ambiance printemps. Voilà, voyez, j'ai fait ce que vous vouliez. Alors, soyez sympa, hein, coupez pas, s'il vous plaît, un deuxième doigt. Mon caméraman est déjà pas super à l'aise
bien,
comme ça.
Merci, Christophe. Bon, d'une certaine façon, effectivement, la situation est redevenue normale à Dijon. Ouais. Nous l'avons compris. À vous, Julie.
Merci beaucoup. Merci, BFM. Hein, Emmanuel Macron a semé le doute, hein, avec son concept du travailler davantage. On l'accueille tout de suite. Bonjour, Monsieur le Président.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Et bravo aux Français qui travaillent davantage. Bravo et merci. Merci aux bouchers qui bouchent, aux plombiers qui débouchent. Merci aux pompiers qui pompent l'eau et aux flics qui me pompent l'air. Merci aux charcutiers qui charcutent et aux chirurgiens de Rachida Dati et d'Emmanuel Béart qui eux... non, rien, pardon, excusez-moi, j'ai dérapé.
Alors, se travailler davantage. Personne ne comprend vraiment, hein, ce que c'est.
Je sais plus si c'est le vrai ou le faux, Cameroun. Je suis un peu perdu.
Bon, personne ne comprend vraiment ce concept, hein, travailler davantage. Dites-nous, monsieur Macron.
Vous n'avez pas compris?
Non.
Oh putain. Bon, ben alors écoutez, on y retourne. Ok.
Les garçons, messieurs, s'il vous plaît, vous me rebranchez la fontaine derrière moi pour faire joli. Vous me remettez la dame qui bouge les mains pour les sourds. Et vous me rebalancez la Marseillaise. Merci.
Mes chers compatriotes, qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans travailler davantage? Ça fait trois mois que vous êtes au chômage partiel. Hein, 3 mois que vous glandez rien chez vous et que c'est moi qui paye. Alors pardonnez-moi, mais travailler davantage que rien, hein, vous êtes sûr que vous ne comprenez pas travailler davantage que rien?
On va passer à autre chose alors. Édouard Philippe s'est exprimé sur son avenir et il a confirmé qu'il restera à Matignon si jamais il...
Il a confirmé qu'il restera à Matignon. Ah, parce que c'est lui qui décide.
Attendez, mais j'ai pas fini. Qu'il restera à Matignon, même s'il est élu maire du Havre. Voilà, c'est ça.
Vous avez fini votre phrase, Julie?
Oui, terminée.
Oui, c'est la même. Il reste à Matignon, même s'il est élu maire du Havre.
Oui,
ben
c'est
non,
ça.
Non, il reste à Matignon, si je veux. Voilà. Édouard Philippe, hein, je lui accorde de ne pas travailler davantage, d'ailleurs. Hein, même de travailler moins. Même de travailler plus du tout, s'il veut. Hein. Ils me fatiguent tous en ce moment. Je suis crevé. Je suis crevé.
Mais courage à vous. Plus que 2 ans. Allez.
Merci.
Allez. Pour terminer, on va revenir sur cette délinquance venue des pays de l'Est qui affronte celle des villes où elle vient s'installer. Jean Lassalle, on va vous accueillir tout de suite. Bonjour.
Ah, bonjour.
Dites-moi, c'est dingue et c'est triste, hein, cette montée du communautarisme. Vous connaissez, vous aussi, ce phénomène dans vos campagnes?
Vous le savez, Monsieur Béliard, Monsieur Gabrol, Ambeline, Vincent, François, Paul et les autres. Je suis un humaniste. Je crois en l'humain. Je ne veux en aucun cas stigmatiser, jeter de l'eau propre sur telle ou telle population. Parler avec un dictionnaire non plus, les gens compris. Voilà, c'est essentiel. Voilà, jeter l'eau propre sur telle ou telle population. Mais cependant, j'ai une très mauvaise expérience avec un jeune venu... Oui, tout à fait. Un jeune est venu des pays de l'Est qui a multiplié les faits délictueux dans mon village.
Ah bon?
Oui, le Margoulin n'a jamais rien voulu en entendre. Jamais voulu faire le moindre effort d'intégration.
Mais il a fait quoi comme fait délictueux? Et où il était d'abord?
D'où il était? Je crois que c'était un Tchétchène. Il était Tchétchène ou Slovène. Et figurez-vous qu'il a, en toute impunité, dérobé à plusieurs reprises du miel. Du miel. Il a agressé dans les rues 2 femmes du village. Blanquette et Bichette. Et puis, l'attitude de ce jeune, toujours à se balader à poil en plein village, dans la rue. Moi, je suis un adepte de la nature. Mais il ne faut pas confondre nature et naturisme. Mais on met quand même un pantalon devant ces dames.
Mais il avait, mais il avait quel âge ?
Comme dirait Cabrol, on met un froc quand même. Voilà.
Il avait quel âge ? Il était mineur ou quoi, là, vous dites un jeune ?
Bien sûr qu'il était mineur, il avait 4 ou 5 ans, à peine. Peut-être 5 ans et demi, peut-être.
Mais c'est un bébé, alors, là.
Mais c'est un bébé, c'est un beau bébé. Hein. À 4 ans, il fait déjà 2 mètres, 130 kilos. Vous savez, les ours slovènes, c'est des sacrés...
Ah, vous avez compris,
Excusez-moi, je ne l'avais pas dit en préambule pour ménager le suspense.
Très bien, très adroit,
oui. Les ours slovènes sont des sacrés morceaux. Hein. Mais excusez-moi, hein, il n'a jamais voulu s'intégrer. En 4 ans, à notre contact, il n'a pas appris un seul mot de français. Il nous faisait tout le temps Voilà, comme ça. Bravo, ils sont bons. Hein, pour faire les cons, ils sont forts. Mais pas un mot compréhensible.
Ah là là.
Bravo. Nicolas Conteloup, la revue de presse, bien sûr. Et on vous retrouve évidemment demain, la revue de presse avec Julie. Et sinon, si on a raté peut-être le début, ou qu'on a envie de le réécouter, ou qu'on a envie de dire Philippe Vandel, t'as raté Conteloup. Non, il faut que t'écoutes absolument Europe1.fr.
Mais bien sûr.
Vous avez la revue de presse à tout le moment du jour et de l'année.
Bien sûr, en podcast et Culture Média aussi en podcast. Mais là, aujourd'hui en direct, l'Infomédia, Le Parisien qui annonce un plan d'économie, de départ du journaliste 30 et de relance du titre. Eh bien, nous serons avec Stéphane Albouy, le patron de la rédaction, la grand reporter ensuite Anniva, qui revient pour un nouveau numéro de sa collection documentaire Dans quelle France on vit. C'est également une des meilleures spécialistes françaises de la Tchétchénie. C'est autre chose que le député qu'on vient d'entendre. Et puis, un hommage à son papa, le chanteur Guy Béart, hommage rendu par Emmanuel Béart, la comédienne, en direct avec nous.
Culture Média, c'est la matinée qui continue de 9h à 11h avec Philippe Vandel. On revient demain, nous, Ombline.
À partir de 5h avec Julien Pierce.
Je serai là en direct avec vous dès 6h. D'ici là, le monde aura changé et j'articulerai.
Et c'était Mathieu Béliard sur Europe 1. Demain. Europe 1.